Mathieu Danen, vous êtes candidat à la députation, à la représentation nationale sur la première circonscription de l'Aveyron et pour le Front National. Ben d'abord, je pense que la première chose à faire, c'est déjà de vous présenter, de nous dire un peu qui vous êtes.
Eh bien, bonjour, merci de m'accueillir une fois de plus dans vos studios, à l'occasion de cette présentation du candidat que je suis pour cette première circonscription de l'Aveyron. Donc, me présenter, pour moi, la politique est assez nouvelle, en tout cas, non pas dans le cadre de la réflexion, puisque je m'y intéresse, je me suis intéressé déjà très tôt, très jeune. J'ai d'ailleurs consacré une partie de mes études, en faisant notamment du droit et Sciences Po. Comme candidat, effectivement, c'est une première pour moi dans une législative. J'avais été candidat en 2014 pour les municipales à Rodez. Et donc là, j'ai décidé de retenter l'aventure pour cette élection législative. Donc j'ai 42 ans, je suis originaire de Toulouse. Et donc j'ai souhaité rejoindre le Front National pour cette candidature. Alors moi, je me considère non pas comme de cette famille politique depuis très longtemps, puisque c'est une nouveauté pour moi dans cette élection. Je suis, je pourrais dire que je suis un homme de droite, plutôt conservateur, et donc j'ai choisi de défendre une nouvelle voie pour ce territoire. Et donc je pense que nous allons en débattre.
Pas débattre, vous allez le
présenter à l'occasion de ce rendez-vous.
Le sujet que vous avez souhaité mettre en premier, vous avez intitulé ça « La fracture territoriale ».
Oui, parce que je crois qu'effectivement, il y aura bien d'autres sujets que nous allons aborder, mais effectivement, c'est celui-là que je souhaite mettre en avant, parce qu'aujourd'hui, un territoire comme cette première circonscription de l'Aveyron, où on est à la fois, si vous voulez, sur de l'urbain avec Rodez et son agglomération, mais aussi une grande partie du territoire qui est rural, où nous trouvons beaucoup d'éleveurs, beaucoup d'agriculteurs. Nous sommes confrontés, par exemple, à l'aire urbaine toulousaine et montpelliéraine, hein, pour faire simple. Et on le voit aujourd'hui, il y a un décalage qui est en train de monter, de plus en plus grandissant, entre les grandes aires urbaines de plus de 100 000 habitants, voire au-delà, hein, 500 000 habitants même, et les communes de 20 000 habitants. Effectivement, on voit que aujourd'hui, ces grandes aires urbaines concentrent l'essentiel de l'activité de notre pays. 40% de la population française, plus de 50% hein, d'une population qui est salariée. Et sur les communes plus petites, hein, donc moins de 20 000 habitants, ça considère à peu près 12% de la population et on est face à 6% d'une population salariée. Donc aujourd'hui, on a effectivement ce décalage. Et
c'est une constatation géographico-démographique.
Oui, mais ça l'est, mais notamment sur, si vous voulez, le fait de, et on va y revenir, de l'accessibilité que l'on pourrait avoir par rapport aux services publics pour les populations qui vivent dans des zones plus rurales, de l'accessibilité aux soins, notamment la possibilité pour les jeunes de pouvoir vivre et s'installer sur le territoire où elles ont habité depuis leur enfance, de pouvoir se former, de pouvoir travailler. Plutôt que d'aller chercher loin une activité professionnelle plus tard. Donc voilà, moi, ce qui m'importe beaucoup, c'est de pouvoir défendre ce territoire, leur consacrer tous les enjeux et toutes les possibilités qu'on pourrait avoir dans les grandes villes, avoir ces mêmes possibilités sur ce territoire-là.
Là, on vient d'avoir un propos lourd quand même, parce que toutes les possibilités des grandes villes sur un territoire plutôt rural avec une agglomération moyenne, il faut l'entendre comment tout ce qu'on trouve dans les grandes villes, on y trouve des théâtres, des musées, des universités.
Eh ben oui, je crois qu'il faut éviter d'avoir une France à deux vitesses. Il faut effectivement, c'est peut-être lourd, mais je crois que c'est ressenti par la population et il me semble que dans une république qui se voudrait en marche portée par notre président, il faut pouvoir donner les mêmes chances à tous, que ce soit dans l'accès à la culture, comme vous venez de le souligner, mais aussi dans l'accès aux soins, dans l'accès aux services publics, dans l'accès à l'éducation, dans l'accès à un travail digne. Parce qu'aujourd'hui, on le voit aussi, beaucoup de de nos traditions, de nos territoires souffrent parce que justement, elles ne trouvent plus de... Elles trouvent moins de valorisation dans ce... Et je pense aux agriculteurs que j'ai rencontrés hier. On le voit, beaucoup de filières souffrent parce qu'elles sont abandonnées et se sentent oubliées dans ce que je peux considérer comme ces territoires perdus. Il n'y a pas que les quartiers en difficulté, peut-être dans les grandes zones urbaines, il y a aussi nos territoires ruraux qui souffrent.
Mais alors, comment fait-on ? Parce que l'accès à un travail digne, par exemple, pour tous, bon, concrètement, on fait comment ? On prend quelles dispositions législatives, puisque c'est une candidature à la députation, comment fait-on pour que ça s'améliore ?
Alors effectivement, un candidat à la députation pense à l'Assemblée nationale avant tout. Et le rôle d'un député est majeur, puisqu'il représente en priorité les habitants qui vont l'élire. Il travaille à l'écriture de la loi, il travaille au vote de la loi, quand il lui est donné la possibilité de le faire. Parce que quand j'entends le nouveau président de la République, M. Macron, dire qu'il va passer un peu en force hein, par une politique d'ordonnance, il faut savoir que, pour ceux qui s'intéressent à la politique, l'ordonnance... c'est pire que le 49-3, hein, avec lequel le gouvernement précédent a fait passer la loi travail, la loi El Khomri. Donc aujourd'hui, un gouvernement qui veut passer par ordonnance, il va s'asseoir effectivement sur le Parlement. Il va s'asseoir sur les débats parlementaires, il va s'asseoir sur ce nécessaire débat qui structure la vie politique, justement, entre la base, hein, les habitants, et tous les corps intermédiaires, et ce travail parlementaire. Et donc moi, vraiment, je suis dans cette volonté de dialogue, cette volonté de débat, puisque je crois que c'est comme ça que nos institutions ont été faites, et passer des lois aussi importantes après ce quinquennat malheureux hein, de Monsieur Hollande, je crois qu'il faut redonner toute cette noblesse de travail au Parlement, et c'est moi dans ce niveau-là que je m'inscris. Et pour répondre plus précisément à votre question, effectivement, la loi peut répondre à beaucoup de choses. Elle peut répondre notamment hein, sur ce qu'on disait sur la fracture territoriale pour aider effectivement ces populations qui souffrent ou du moins ces filières qui souffrent. Déjà, si on reprend par exemple la thématique de l'agriculture, on peut proposer plusieurs choses. Donc si on veut promouvoir une agriculture de qualité et respecter les milieux naturels et paysagers dans lesquels nous vivons, pour défendre nos agriculteurs, il faut faire face à la concurrence déloyale et faciliter donc les circuits courts. Notamment en garantissant un juste prix pour nos produits agricoles, mais avant tout faire en sorte que nos agriculteurs puissent vivre dignement de leur travail et non pas uniquement que des aides. Là, j'entends faire un travail, par exemple, sur les aides que reçoivent les agriculteurs de la PAC, cette fameuse PAC donc européenne. Mais réfléchir
qui ne va plus durer indéfiniment.
Qui ne va plus durer indéfiniment. Donc c'est pour ça qu'il faut revaloriser, si vous voulez, ces filières agricoles. Peut-être en garantissant des prix par l'État, produit par produit, en négociant avec les syndicats. Donner la priorité peut-être de produits locaux français dans les cantines scolaires.
Bon, ça c'est le coût des circuits courts.
Oui, mais c'est important.
Qu'évoquent tous les candidats, tous vos concurrents et vous-même. Il y a tout de même autre chose, et vous en parlez dans vos documents, la concurrence que vous appelez déloyale. Oui. Effectivement, on sait que les coûts de production, chez même nos voisins, simplement, sont quand même extrêmement différents. On s'interroge même comment des gens qui arrivent à peine à se payer arrivent à ne pas être concurrentiels.
Alors voilà, en fait, vous pointez du doigt un constat tout à fait juste que tous mes concurrents font et que de nombreuses filières font dans le cadre de leur quotidien, et je pense donc aux agriculteurs. On peut y revenir notamment sur les traités internationaux, hein, notamment le CETA, qui va nous faire beaucoup de mal. Mais si vous voulez, on ne va pas jusqu'au bout du raisonnement. C'est-à-dire qu'on pointe du doigt un constat malheureux par rapport à cette concurrence déloyale. Je pense aussi à la directive européenne des travailleurs détachés. Si vous voulez, au départ, je pense qu'il y a une bonne volonté, il y a un bon principe qui sous-tend à cela, puisque je ne vois pas que des effets négatifs à l'Europe. Au contraire, moi, je suis vraiment un Européen convaincu. Et je crois qu'il faut corriger l'Europe telle qu'on l'a bâtie aujourd'hui. Et c'est en ça qu'il faut revenir, si vous voulez, à ce que la loi que l'on vote au niveau national puisse garantir à nos citoyens une protection. les rassurer dans leur quotidien. Et aujourd'hui, on le voit, quand notre loi ne répond pas à ces attentes, parce qu'elle est contrainte par une législation européenne, il faut effectivement rectifier le tir. En tout cas, moi, c'est en tant que candidat à la députation, c'est mon souhait. Et donc, effectivement, donc, lutter contre la directive travailleurs détachés qui donne à des contraintes, notamment, et je pense aux transporteurs routiers que j'ai rencontrés, hein, puisqu'ils sont effectivement directement contraints par une concurrence déloyale dans leur milieu sur cette directive. Bon, voilà, après, on peut revenir à des choses qui ont marché. Je pense à la défiscalisation des heures supplémentaires.
Attends, on était sur les territoires, on va y rester encore un petit peu, oui. Puisque dans votre document de campagne, vous parlez de revaloriser les centres-bourgs. Oui. Alors, les centres-bourgs, effectivement, il semble qu'ils aient un peu de mal, du moins dans les petites villes. Effectivement, c'est un leitmotiv également de vos concurrents de revaloriser les centres-bourgs. Mais les centres-bourgs, je me demande s'ils ne sont pas dans l'état dans lequel ils sont, parce qu'il y a simplement une paupérisation des gens qui les habitent.
C'est exactement ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte de garder notre territoire attractif. Et donc c'est tout d'abord par garder ses habitants, les habitants qui y vivent, les habitants qui y produisent des richesses extraordinaires, et donc qui font vivre tous ces territoires. Donc on le sait, l'Aveyron est un territoire enclavé, donc il faut travailler à son désenclavement, mais il faut travailler à son développement économique.
Et ça nous amène aux services publics, peut-être.
Et ça nous amène effectivement à faire en sorte à ce que tous les services publics soient proposés à ses habitants. Donc on peut effectivement revenir sur la revalorisation des centres-bourgs par l'amélioration de l'habitat. On peut effectivement travailler avec les collectivités territoriales pour faire en sorte qu'elles conduisent à cette aide publique. Parce que quand je disais cette fracture territoriale de départ qui existe, aujourd'hui on le voit bien, qu'est-ce qui permet d'éviter un trop fort décalage ? C'est qu'il y a un jeu de péréquation avec la dépense publique qui va être mise au service de ces territoires. Donc je pense notamment à la couverture complète du territoire par le très haut débit, la téléphonie mobile, afin d'éviter justement qu'il y ait des zones blanches pour que justement nos téléphones portables puissent passer, que l'Internet puisse passer partout. Soutenir effectivement le désenclavement routier du territoire avec la mise à 2x2 voies de la RN 88 jusqu'à Sévrac-le-Château, ne pas uniquement s'arrêter qu'à Rodez, et donner justement la possibilité à ces territoires de respirer avec les grandes métropoles qui irriguent effectivement toute notre région.
En quoi le député peut-il quelque chose sur le doublement de la RN 88, sur la répartition de la fibre dans tout le territoire?
Mais le député, si vous voulez, c'est lui qui va faire le lien entre les différents ministères et ses habitants. C'est lui qui va travailler, si vous voulez, à Paris, qui va être ce relais essentiel avec ceux qui nous gouvernent. Donc, soit pour alerter, soit pour aller dans le bon sens, puisque moi, si je m'inscris demain dans une opposition, je veux que cette opposition soit constructive. On ne va pas s'opposer pour s'opposer. Donc, effectivement, s'il y a des bonnes choses qui sont faites pour le territoire et par ce gouvernement, ben, on le soutiendra.
Mais les bonnes choses en question, c'est de l'argent.
Enfin, mais oui.
Tout ça a un coût. C'est très simple.
Hein. Ah, il ne faut pas réduire tout à l'argent, mais si vous voulez, je pense que il faut effectivement faire en sorte à ce que les crédits n'aillent pas uniquement que sur les grandes aires urbaines et que des crédits publics soient consacrés à nos territoires, effectivement.
On a, je crois, sur les territoires, on a parlé de la directive des travailleurs détachés, vous avez parlé de la loi travail. On en vient à un de vos thèmes, et je me permets de rappeler que vous êtes père de 8 enfants, donc la défense de la famille vous est assez normalement chère, dans tous les sens du terme.
Tout à fait.
Et donc là-dessus, vous parlez de l'universalité des allocations familiales. Je ne vous ai rien vu dire sur le quotient familial qui avait été modifié ou... Enfin, de toute façon, je sais que vous êtes à même de vous exprimer sur la défense de la famille.
Oui, alors voilà, je vous remercie de rappeler que je suis père de famille nombreuse. Effectivement, je défends la famille et je tiens, par cette possibilité, je salue aussi mon épouse qui m'accompagne dans cette campagne, qui me soutient. Parce qu'effectivement, élever 8 enfants, Ce n'est pas de tout repos.
Ça n'est pas un travail fictif.
Ce n'est pas un travail fictif. Voilà. Si je suis élu, elle ne sera pas mon attachée parlementaire. Donc, voilà. Effectivement, c'est un combat qui m'est fort cher. Par le passé, j'ai pu effectivement avoir.
Sur le temps, le député, lui, que fait-il?
Mais le député travaille à ce que effectivement, à ce que la société soit en harmonie. Et je regrette que le gouvernement précédent soit passé en force, notamment pour imposer la loi Taubira, hein, sur le mariage pour tous. Donc effectivement, si on pouvait l'abroger, moi j'en serais heureux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas ne pas reconnaître les unions de même sexe, mais moi je proposerais que cela soit défendu dans le cadre d'une union civile. Voilà. Et puis je suis inquiet effectivement sur tout ce qui concerne la PMA et la GPA. Ça pose des questions
pour autrui.
Voilà. Ça pose des questions éthiques. Et aujourd'hui, moi, je resterai effectivement en alerte.
Mais là, vous êtes à l'abri. Tout le monde est contre.
Oui, mais vous savez, cela avance et on le voit. Il y a des débats juridiques en cours actuellement sur ces questions-là. Et je crois qu'il faut être en position d'alerte, parce que vous savez, le travail d'un député aussi, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Et donc, dans ce sens-là, j'y serai attentif.
Alors, dans vos documents de campagne, je me réfère toujours à ça, il me faut une trame, donner les moyens humains et matériels aux forces de police de gendarmerie pour défendre leur présomption légitime défense. Sur le plan de ce qu'on appelle les forces de l'ordre, il faut en embaucher, il faut leur donner des facilités.
Je pense que la réduction des fonctionnaires concernant les forces de l'ordre a été dramatique pour notre pays. Donc aujourd'hui, on le voit, la sécurité est une attente forte de nos concitoyens. Donc là-dessus, voilà, je ferai bref parce que, si vous voulez, je pense que ça fait partie des moyens que l'État doit se donner. Et là, je serai derrière le gouvernement, s'il faut l'être, pour aller sur ce terrain. Et je crois qu'il faut leur donner tous les moyens humains et matériels à nos forces de police et de gendarmerie et assurer chez elles une protection juridique, notamment dans le cadre de la légitime défense, quand elles sont contraintes à ces actions-là. Il faut pouvoir défendre nos forces de police et de gendarmerie. Et je soutiendrai par là aussi de nouvelles places de prison, la construction de nouvelles places de prison. Voilà. Donc pour moi, soutenir les forces de l'ordre et renforcer la sécurité de tous.
Les nouvelles places de prison, c'est combien? Parce qu'il y a des gens qui disent 15 000, qui disent 40 000.
Non, moi je ne m'étendrai pas sur le nombre, sur un chiffre, mais je crois qu'il faut renforcer, si vous voulez. Il faut donner les moyens à nos forces de police et de gendarmerie, les moyens d'assurer la sécurité et donner la possibilité à la France là-dessus d'avoir tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des Français.
Tout ça, comme le doublement de la RN 88, ça a un coût.
Ah oui, mais tout à fait.
Tout à fait. Donc ça veut dire qu'on finance ce coût comment ?
Il y a des priorités, si vous voulez, dans notre pays, on le voit. Hein, nous sommes encore en situation d'urgence. Donc aujourd'hui, voilà, il faut que l'État se donne les moyens. Et le député que je serai demain à l'Assemblée nationale, il veillera. Voilà.
Se donner les moyens, c'est augmenter les impôts, la CSG, la TVA.
Bon, on va pas là en deux minutes qu'il nous reste rentrer dans un débat économique. Moi, ce que je souhaite, c'est être un député au plus proche des attentes de mon territoire. C'est pour ça que voilà, je propose une partie du programme que nous avons effleuré là, en 20 minutes aujourd'hui à l'occasion de cette émission. Je souhaite aussi m'inscrire, si vous voulez, dans une opposition constructive, parce que on voit qu'il y a un flou au niveau de mes concurrents, et je pense notamment à Yves Sancy, hein, qui représente les Républicains et qui a appelé à voter Emmanuel Macron. Donc aujourd'hui, voter LR, on ne sait pas si on vote pour l'opposition ou pour la majorité. Voilà, moi je considère que pour le débat démocratique, il faut qu'il y ait une majorité présidentielle et il faut qu'il y ait une opposition. Voilà, moi je m'inscris dans cette opposition constructive à ce gouvernement Macron qui est en train de s'installer et je représenterai au mieux que je pourrai les attentes de mon territoire.
Mathieu Dadène, vous êtes candidat donc du Front National à la députation sur la première circonscription de l'Aveyron. Je vous remercie.
Je vous remercie.